La vie commence à 45 ans. Une émission d'Isabelle Plançon.
Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Bonjour mes amis. Le soleil est revenu, ça fait du bien, hein ? Alors aujourd'hui, je n'ai pas une invitée, mais deux invitées pour deux témoignages inspirants. Ce sont deux femmes que vous allez écouter nous raconter leur histoire. Ce sont deux femmes qui ont vu leur vie basculer comme 60 000 femmes chaque année parce qu'elles découvrent qu'elles ont un cancer du sein. Alors après une mammographie, c'est souvent un parcours du combattant qui s'annonce et elles vont nous raconter le choc que ça a pu être pour elles, mais aussi derrière la guérison, bien sûr, et puis ce que ça a changé pour elles. Aussi, je voulais absolument qu'elles viennent parce que c'est un témoignage inspirant et c'est un témoignage d'espoir. Il y a une issue identique pour elles deux, parce qu'après des mois de combat, elles ont vaincu enfin ce vilain crabe. Ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est l'après-maladie, ce qu'elles ont modifié dans leur quotidien, qu'est-ce que cette épreuve leur a apporté et pourquoi elles ont eu besoin de changer de mode de vie. Alors, nous allons commencer aujourd'hui, maintenant, là tout de suite, par Dorothée, qui est une magnifique brune un peu claire, hein, châtain en tous les cas, aux yeux verts. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, bonjour Dorothée.
Bonjour Isabelle.
Alors Dorothée, est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr, je m'appelle Dorothée, j'ai 59 ans, je suis architecte d'intérieur et dans mon parcours de vie, je suis veuve, j'ai perdu mon mari il y a 10 ans et mère de deux grands-enfants qui ont quitté le nid depuis un certain temps.
D'accord. Alors, en fait, il y a combien de temps que tu as découvert, malheureusement, que tu avais fait cette découverte d'avoir un cancer du sein ? C'est à quelle occasion ?
Eh ben, j'ai découvert il y a environ 7-8 ans en me palpant le sein, hein, parce que moi j'ai pas mal de cancers du sein autour de moi dans ma famille. J'ai découvert une petite boule, donc je le faisais très très régulièrement.
Tu te palpais le sein très régulièrement ?
Oui, quand on a un risque dans sa famille, c'est vraiment conseillé. Et je fais aussi des mammos chaque année depuis très longtemps.
D'accord, donc tu découvres une petite boule et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, à ce moment-là, j'ai évidemment un déclic, à la fois effondré, mais en même temps une envie d'aller très vite. Donc j'enchaîne mammos, biopsie, rendez-vous chez l'oncologue. Tout ça dans
T'as enchaîné.
J'ai enchaîné. Donc, comme une furie. Quoi.
Ouais, t'es partie au combat direct.
Combat, ouais. Direct.
Pourtant, t'as dit que t'as eu peur.
Ah ben bien sûr, Mais en même temps, je voulais pas garder ce crabe dont tu parlais.
Tu m'as dit que tu voulais évacuer cette saloperie tout de suite de ton corps.
Tout de suite. Donc j'ai fait un choix stratégique très différent de la plupart des gens.
Oui, j'aimerais que tu en parles de ça parce que tu vas voir, donc tout de suite, tu fais le parcours, là, rapide, et dès que tu vois le médecin, tu décides de faire un choix traumatique, finalement.
Traumatique, mais il faut mettre dans la balance que j'ai demandé une mastectomie totale, c'est-à-dire qu'on m'enlève le sein totalement, c'est-à-dire la glande mammaire ainsi que le téton, avec une reconstruction en deux temps. Mais en même temps, alors j'avais 80% de chance de ne pas avoir de chimio et de radiothérapie, mais... Une semaine après mon opération, donc moins d'un mois et demi après ma première biopsie, je savais que je n'avais rien, que j'avais des opérations de reconstruction, mais heureusement pour moi, pas de chimio, pas de radiothérapie.
C'était ça le plus important pour toi finalement ?
Le plus important, oui, parce que j'ai vécu avec le cancer du sein de ma sœur, donc je savais par quoi elle était passée.
Je comprends.
Donc j'ai vu le traitement long et difficile que c'était. Enfin, c'est très très... Alors, c'est peut-être une amputation pour certains, mais moi, j'avais pas de traitement. Donc, c'était...
Un soulagement, quelque part.
Un soulagement. Pour moi, c'était un vrai soulagement.
Malgré tout.
Malgré tout ce que j'avais vécu.
Donc, à ce moment-là, on t'enlève le sein. Et combien de temps après, tu as eu une reconstruction ?
Quasi immédiatement.
En fait,
on m'a mis une prothèse provisoire. Et entre ma biopsie et ma dernière opération, j'ai eu deux opérations de reconstruction. Il s'est passé 6 mois.
Tu t'es pas vue sans sein, finalement.
Si. Quand même.
Tu m'as pas dit que tu appelais ton sein le sein cabossé ?
Je l'appelais mon sein cabossé parce qu'il était très vilain au début.
Ouais.
Et très vite, il a repris forme. Et puis, la dernière intervention, 7-8 mois après, ça a été un tatouage. Et je dis qu'il a donné un joli visage à mon sein, un petit regard. Et voilà, il faut le prendre en rigolant.
T'as fait un tatouage en 3D, tu m'as dit.
Tatouage du téton en 3D.
Waouh ! Je savais pas que ça existait. Hein.
Ouais, bah écoute, c'est pas mal. Je le montrerai pas à l'antenne, je pourrais presque. Vaut mieux en rire.
Donc bon, voilà, toute cette partie-là, on voit bien que tu passes par tout un tas d'étapes douloureuses et difficiles. Mais à ce moment-là, tu m'as dit que tu avais fait un autre parcours en même temps.
Alors ça, c'est le parcours médical. Et en fait, mon corps, il clignotait. Mon corps, il me dit, il se passe quelque chose chez toi. Et je me suis rendu compte, j'ai mis beaucoup de temps, hein, je ne dis pas que c'est rapide, qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Donc, je me suis lancé dans une psychothérapie assez courte, bon, qui était liée...
Qui a duré combien de temps ?
Ça a duré 8 mois, qui était un peu liée aussi...
Mais intense, hein, je crois. Hein.
Intense, oui. Voilà, avec pas mal de choses que j'ai faites, on n'en parlera pas là. Avec une approche pour dire, essayer de comprendre pourquoi j'avais eu un cancer du sein. Parce que le médical, c'est bien gentil. Et c'est vrai qu'il y avait une part liée à mon deuil. Le sein, on parle souvent
le deuil de
mon mari,
oui,
que j'avais perdu 10 ans avant.
Comment tu vivais après ce deuil, d'ailleurs, tu m'en as parlé?
Ben, je vivais en mettant des barrières avec beaucoup, beaucoup de monde, en fait. À force de vouloir respecter, finalement, ce que j'avais vécu avec lui, parce que j'ai vécu 25 ans extraordinaires avec lui... Je mettais des barrières avec tout le monde. C'est plus facile de ne pas s'engager que de s'engager et avoir peur d'être triste, hein, finalement.
Oui.
Et aujourd'hui, j'ai, je pense, lâché une partie de ces barrières, même si le deuil n'est pas forcément toujours fini. Mais je pense avoir terriblement avancé. Et cette psychothérapie, comme dans beaucoup de conseils, on vous demande d'essayer de vous recentrer sur vous.
Oui, tu t'es recentré.
Alors, il faut trouver aussi dans son parcours personnel une manière de se recentrer. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis architecte d'intérieur, j'adore dessiner.
Et oui,
voilà.
Attends,
alors ça c'est autre chose.
C'est moi qui vais te poser la question. Parce qu'on a dit que c'était moi qui te posais la question, justement. En fait, oui, je crois que ta psychothérapeute t'a conseillé de faire un dessin.
Une bonne psy, elle ne conseille pas.
Ah, pardon.
Une bonne psy te fait réagir et prendre des décisions. C'est-à-dire qu'elle te fait parler et elle te fait avancer.
Okay.
Et grâce à ce qu'elle m'a dit, grâce à la compréhension de pas mal de choses dans ma vie, j'ai compris qu'il fallait essayer de se recentrer. Ce mot est revenu plusieurs fois. Donc, chacun sa manière de se recentrer.
Et à ce moment-là, tu as fait quoi pour te recentrer ?
Eh ben, elle m'a dit, est-ce que vous avez une passion dans votre vie ? Et je suis revenue à quelque chose d'ancestral du dessin qui a toujours fait partie de ma vie.
Mm-hmm.
Mais ça faisait 40 ans que je n'avais pas touché une aquarelle. Et je me suis remise à dessiner. Mais elle m'a dit, faites pas du coloriage. Vous vous remettez à dessiner vraiment.
D'accord. Donc, à partir de là, tu as commencé à emmener ton carnet de dessin et tes aquarelles un petit peu partout, en France. Hein. Mm-hmm. Et donc, actuellement, ça donne quoi ? Qu'est-ce que tu fais avec ton carnet de dessin et tes aquarelles ?
Alors, de partir à droite à gauche, je suis partie effectivement en France. Et sur le trajet, j'ai rencontré pas mal de gens et j'ai proposé de dessiner la maison des gens sous forme d'aquarelle que je leur laisse encadrer. Et c'est vrai qu'on a un petit peu comme autrefois, où on faisait souvent ça comme cadeau. J'ai fait beaucoup de cadeaux aux gens que j'ai croisés. Et puis, on m'a beaucoup encouragée et j'ai eu envie donc d'en faire plus, d'exposer. Et entre une petite expo et des aquarelles que j'ai dessinées pour les gens, eh ben j'ai lancé quelque chose.
Qui te passionne,
qui passionne.
Et qui te plaît énormément, finalement.
Voilà.
C'est une reconversion, là.
Voilà, c'est une reconversion entre allier deux passions, le dessin, le voyage, les rencontres. Et j'arrive... Aujourd'hui, je croise les doigts à être très encouragée et tout le monde me pousse à continuer.
Et là, tu parles de la France, mais tu as un projet qui est à l'étranger.
Alors oui, j'ai un projet que j'ai appelé la route de l'or, qui est une route qui existe au Brésil. Mmh. Donc j'avais l'idée de partir un mois au Brésil, dans l'intérieur des terres, sur la trace des chercheurs d'or. L'or, c'est aussi une quête d'un trésor et on peut aussi une quête de soi. C'est une manière de se retrouver aussi et de faire un carnet de voyage à travers tous ces... Et je ne connais pas du tout le Brésil, donc ce sera vraiment
une
vraie découverte d'un pays, mais peut-être aussi d'un un petit peu moi.
Aussi, encore.
À l'issue de tout ça.
Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. On va écouter une petite chanson entre les deux témoignages qui vous correspond tellement bien, les filles, puisque c'est vous les femmes de Julie Iglesias.
Les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges adorables, et nous les hommes pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis son éclat. On les fous des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des âmes.
Alors, nous sommes cet après-midi avec deux femmes courageuses et magnifiques qui nous partagent leur histoire, leur combat et leur réussite. Nous avons écouté Dorothée et maintenant nous allons entendre Corinna, une magnifique blonde aux yeux bleus. Ah oui, vous avez deux magnifiques femmes cet après-midi pour vous, mes amis. Donc Corinna, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, bien sûr. Bonjour Isabelle et merci.
J'adore. Bonjour Isabelle.
Isabelle. Oui, mais je m'appelle Corinna, Corinna Lys. Je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis aujourd'hui professeure de yoga et naturopathe.
Exactement. Et voilà. Tu ne l'as pas toujours été, c'est ce que tu vas nous raconter.
Exactement.
Alors, et d'ailleurs, tu as un joli accent qui vient d'où ?
Ah, mon accent, je suis argentine.
Waouh !
Voilà, j'habite en France depuis 30 ans, mais l'accent a resté avec moi.
Voilà, magnifique, l'accent comme Jane Birkin.
Merci.
Alors, on va, je vais te poser la question, en fait, c'est pas une question très très drôle, mais néanmoins, on est là pour raconter donc votre histoire. Alors, depuis combien de temps tu as découvert que tu as eu un cancer et c'est passé à quelle occasion ?
En fait, c'était en mars 2020, j'ai découvert un tumeur dans mon sein gauche et c'était pendant un stage de formation de yoga à l'époque, après un après-midi d'un exercice très exigeant au niveau des respirations, que je me palpais dans la poitrine et dans les seins parce que j'avais vraiment mal et j'ai découvert une petite boule.
Tu te palpais, toi, comme Dorothée ou pas?
Non, je ne me palpais pas à l'époque. Non, ce que je faisais, c'était des mammographies toutes les années.
Ah, tous les ans?
Tous les ans, oui.
Tu es en train de me dire que tu étais en mammographie, que tu faisais une mammographie tous les ans et que tu découvres une boule. Ça veut dire que la boule, elle s'est faite dans l'intervalle?
Exactement. Justement, je me demandais la même chose parce que je devais faire une mammographie dans le mois d'avril et je m'avais fait un an avant. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que cette tumeur, elle était propagée en 4-6 mois. Ça allait
incroyable.
Très, très vite. Oui, incroyable.
Donc, vous
ouais.
entendez, hein, mesdames, il faut faire des mammographies tous les ans. Hein.
Exactement.
Et ça s'appelle comment d'ailleurs, cette tumeur,
c'était avec une cellule qui s'appelle HER2. et que en fait ces copies très assez vite hein, et que le risque c'est de faire des métastases dans tous les corps.
Mais tu as dû avoir très peur quand tu as appris ça.
Oui, j'ai eu peur.
Oui. Tu m'as dit que tu étais totalement déstabilisée.
Exactement, j'étais déstabilisée, je me sentais assez seule aussi face à ces protocoles qui me sont annoncés à suivre.
Et alors attends, pour le protocole, tu m'as dit que tu as été voir plusieurs personnes d'ailleurs.
Oui.
Tu as été voir combien d'hôpitaux ?
En fait, j'ai vu 3 hôpitaux différents.
C'est incroyable ça.
Ouais,
mais c'est... pourquoi tu as fait ça ?
En fait, j'ai fait ça parce que j'étais prête à faire un traitement, mais j'avais besoin de comprendre et j'avais besoin aussi d'être protagoniste de ma guérison. Dès le début, j'avais décidé que j'allais me guérir, mais que les traitements que j'allais suivre, il fallait que je me sente bien, que je me sente bien dans l'endroit et assurée aussi par rapport au protocole que les différents hôpitaux me proposaient.
D'accord. Oui. Et d'ailleurs, il y a une personne qui t'a conseillé, que j'ai reçue ici aussi.
Ouais.
Tu peux le dire qui?
En fait, mon dernier rendez-vous, c'était avec le docteur Toledano, dans l'hôpital à l'Évaluer où il travaille. Et dans notre conversation, voilà, il a confirmé un des protocoles qui m'a été conseillé et que j'ai suivi à l'époque.
Oui. Tu peux expliquer ce qu'est ce protocole? Parce que quand tu m'en avais parlé à l'époque, moi, j'avais été très étonnée.
En fait, par rapport à cette cellule HER2, il m'était conseillé de faire d'abord chimiothérapie, opérer, radio et un protocole d'immunothérapie. À l'inverse, qu'avant, on faisait directement, on faisait l'opération. Après la chimio et la radiothérapie, bon,
oui.
Un peu c'était ça. Mais c'était à l'inverse. Pourquoi ? Parce que de cette façon-là, quand on retirait la tumeur, on pouvait voir si le traitement avait fait effet ou pas par rapport à tous ces traitements-là.
Oui, parce que sinon, avant, on enlevait effectivement la tumeur et on faisait une chimiothérapie, seulement on ne voyait pas du tout ce qui se passait. Et donc là, au moins, faire la chimio, ça permet de faire réduire la tumeur et ensuite, donc, on voit si le traitement fonctionne. Et d'ailleurs, j'aimerais à ce moment-là te dire, tu as exactement suivi ce protocole, toi, tu as fait de la chimio. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ?
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ? Justement, parce que c'est pour ne pas avoir de récidive. Et justement, quand on élève la tumeur n'était pas totalement, elle n'a pas disparu totalement avec les chimios que j'avais fait. Ça veut dire qu'après la radio, j'ai dû refaire une chimiothérapie des 18 séances de chimio que ça a perduré pendant un an.
Ouais. Tu as dû vraiment être abattue à ce moment-là.
J'étais très abattue parce que, voilà, quand on est dans un traitement tellement intense comme celui-là, on a envie de que ça s'arrête aussi.
Bien sûr. Tu avais perdu tes cheveux, tout ça, ça devait être très dur.
Oui, j'ai perdu mes cheveux. On est beaucoup plus fragile. La mémoire aussi, elle n'est pas trop présente. Il y a beaucoup des signes
Des symptômes associés.
Associés, exactement. Mmh. Merci.
Alors, comment tu as fait pour justement traverser tout ça? Tu m'as parlé d'ailleurs de l'Institut Raphaël qui t'a, et des personnes qui étaient dans l'Institut Raphaël qui t'ont aidé.
En fait, oui, j'ai eu la chance d'être prise à ce moment-là à l'Institut Raphaël. J'ai fait un parcours pendant 6 mois, le mois de juillet. Et oui, j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui me sont accompagnées à ce moment-là, autant des sophrologues, hypnothérapeutes, et des massages, acupuncture, et surtout... j'ai travaillé beaucoup, ce qu'on parle tout le temps, être protagoniste des mal de guérison. Aller là-bas et travailler et échanger avec eux, mais prendre en main pour toute cette thérapie de bien-être qui est là l'Institut Raphaël et ailleurs aussi, parce que j'ai vu des gens qui me sont aidés avec la Reiki, sont des gens aussi.
T'as fait plein de choses holistiques en fin de compte. Hein,
holistique. J'ai changé toute mon alimentation aussi.
Oui.
Mon alimentation a été totalement changée.
Et à ce moment-là, tu m'as dit que c'est là où t'as décidé vraiment de changer de métier. Parce qu'avant, tu faisais quoi?
En fait, avant, j'étais styliste et directrice créative.
Voilà, tu travaillais dans la mode.
Exactement,
voilà.
Pendant 25 ans. Et justement, en commençant, après les confinements, j'ai commencé à faire différentes formations et études des naturopathes et yoga. Mais c'était à ce moment-là, pendant la maladie, que j'ai pris une direction totalement différente par rapport à ma profession et par rapport à ma reconversion. Oui, ma reconversion professionnelle.
D'accord. Oui. Et en même temps, tu m'as aussi dit, c'est important de le dire à nos auditeurs et auditrices, que tu as beaucoup accompagné ta maladie par des intentions de guérison.
Ah oui, oui, c'est vrai, parce que j'ai médité tous les jours à ces moments-là aussi. J'ai pratiqué beaucoup de yoga et dans la méditation, j'ai travaillé énormément des visualisations.
La visualisation de ta guérison.
De ma guérison. Même pendant la chimiothérapie, voilà, j'ai visualisé que les liquides qui rentraient dans mon corps allaient me guérir. Je l'imaginais avec des couleurs et des couleurs de guérison. Oui, oui, c'était...
C'est très beau ce que tu dis et tu m'as même dit aussi que tu étais très entourée avec plein de petites fées qui t'ont bercée par leur amour.
Exactement, je t'ai dit ça parce que j'ai eu la chance, justement, c'est un de mes guides qui me sont conseillés de faire ça aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui me sont beaucoup aidés, beaucoup accompagnés, avec beaucoup d'amour, que je les appelle des petites fées. Et des gens que je connaissais d'avant, et qui s'en étaient là d'une façon très intense pendant ce temps-là. Il y en a beaucoup, beaucoup besoin de ça. Et des gens aussi que j'ai connus pendant toutes mes formations qui sont vraiment...
Qui t'ont accompagné.
Énormément.
Est-ce que tu voudrais nous dire une petite dernière phrase et ensuite ce sera Dorothée qui finira avec une petite dernière phrase. Tu m'as dit que la maladie, elle est là souvent pour...
La maladie, elle est là pour guérir. Exactement, la maladie, elle apparaît, c'est ça que je l'ai interprété à ce moment-là. Elle est venue me dire quelque chose que moi, je n'arrivais pas à comprendre avant, peut-être dans mon corps émotionnel, dans mon corps, voilà, et qui s'exprimait à travers de mon corps physique. Maladie, moi j'ai appris que c'est mal à dire. Voilà, et elle vient là pour nous guérir. Et c'est ça aussi qui m'accompagnait tous ces temps, 300 des traitements.
Oui. Merci beaucoup, Corinna.
Merci à toi, Isabelle.
Et donc, toi aussi, tu as quelque chose à dire pour la fin de cette émission.
C'est une petite anecdote qui me vient de ma petite enfance où on dit que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Et en fait, on se rend compte que c'est valable dans beaucoup de choses dans la vie, que ce soit dans le travail, dans les relations personnelles, dans la maladie. Et qu'effectivement, il faut essayer de se... Enfin, c'est une forme de résilience, quoi, de trouver derrière la chute, il faut retrouver pied et remonter. Et voilà, moi, je suis de nature à remonter et à donner un coup de pied dans le fond de la piscine et revenir.
Ouais, vous l'avez fait toutes les deux.
Voilà. Et puis, la vie est tellement belle que, franchement, il faut y aller.
Ouais. Merci beaucoup, Corinna. Merci beaucoup, Dorothée, d'être venue nous parler de quelque chose d'extrêmement personnel et difficile même hein, pour les femmes de dire, voilà, moi, j'ai eu un cancer du sein, il m'est arrivé ça. Je suis vraiment très émue de vous avoir reçue et je vous souhaite bien le meilleur pour toutes les deux. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, hein, mes chers auditeurs.
Merci.
Merci, Isa.